le matin.
Bon lundi, les amis. On est le 4 mai 2026, 6h25. C'est le début de la pêche au homard qui commence.
Ah ouais, je savais pas ça.
Oui, l'année record l'an passé. 2025, ils ont réussi à prendre 11 millions de livres de homard. Hey. Ça totalise une valeur de 83 millions de dollars en Gaspésie, là, selon Pêche et Océan Canada. Fait que c'est le début. Les gars doivent être contents de sortir en tabarouette.
Que dans sur l'activité, à part le tourisme, ça doit être l'activité économique la plus importante de la Gaspésie. À 83 millions.
Oui, sans l'ombre d'un doute.
Oui.
Sans l'ombre d'un doute. Combien de casiers que les capitaines propriétaires ont le droit de mettre à l'eau?
Hey, bonne question. Je te dirais 5.
5? Mais là, ils font pas des enfants forts avec ça.
Ouais, mais à coup de 5, ils remettent.
Propriétaires de bateaux, pour ce qui est de la pêche au homard, sont tous multimillionnaires. C'est pas le cas des employés. Là. Pour ce qui est des propriétaires, ils sont tous multimillionnaires.
Ils ont le droit à 150.
C'est 235 précisément.
C'est beaucoup.
C'est écoute,
parce que là, ils ramassent ça de la chatte. Là.
Oui.
Ils en ramassent à coût de 235.
C'est
casier.
C'est très surveillé. Là,
ouais,
j'ai
des
connaissances. C'est des gens que j'ai rencontrés qui se sont fait tout retirer leur équipement de plongée sous-marine, se sont fait retirer leur véhicule, se sont fait retirer leur cellulaire. Tout ce qu'il y avait, ils se le sont fait retirer parce qu'ils ont décidé d'aller chercher un lunch dans le fond de l'eau. Faisaient la plongée sous-marine, se sont dit « Hey, on va aller chercher un lunch. » Se sont fait prendre par des agents, là, puis ils se sont fait pogner. Une lourde amende.
Je connaissais pas
puis
ces règles.
Tout ce qui a servi à la fraude, merci, bonsoir, on le prend.
Aïe, aïe, aïe. Pour une envie d'aller chercher un lunch.
Et ton restaurant te coûte cher. Là. Il voulait se faire un feu sur le bord de la mer. Il voulait aller chercher...
Juste profiter du bon temps.
Oui, c'est ça. Hey, c'est le genre d'affaires que tout le monde peut avoir idée.
Oui, c'est ça, c'est parce que c'est considéré comme du braconnage, dans le fond.
Oui, exact. C'était considéré comme du braconnage, mais en même temps, j'ai trouvé les agents un peu trop sévères. Là.
Ben là, c'est ça, là. Tu peux faire une sensibilisation là, quand les gars sont pas des vrais braconneurs.
On devrait pas dire ça, mais une claque en arrière de la tête, moi, je l'aurais pris, là.
Ben, c'est ça.
À la place de m'enlever mon truck, donne-moi une grosse claque en arrière.
Bon, une petite claque en arrière de la tête, là, puis tu disais, hey, les boys, je comprends que vous avez du fun. T'sais, au pire, une amende d'une couple de centaines de piastres, là, juste pour laisser une trace.
Fait que la pêche au homard, ça débute aujourd'hui. Ça dure combien de temps? 68 jours. Donc, ça va se terminer début du mois de juillet, puis après ça, c'est terminé. Puis le homard, à ce qu'on nous dit, il ne sera pas plus cher pour l'instant, même s'il y a eu augmentation du baril de pétrole, là, il ne sera pas plus cher pour l'instant que l'an passé.
Bonne nouvelle.
Max, qu'est-ce qui se passe sur la route?
Rien. Un petit peu d'attente pour la porte nord.
Les news 102.1.
Tu commences avec quoi ce matin?
Déploiement du dossier santé numérique, le fameux DSN. La première ministre Christine Fréchette qui affiche clairement sa posture. On ne peut plus repousser la modernisation. On donne le feu vert. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mme Fréchette qui semble vouloir rassurer les Québécois, expliquant que le 9 mai, on va aller de l'avant avec deux projets vitrines. Un en Mauricie, centre du Québec, et un à Montréal. On commence avec deux projets pour s'ajuster et faire les choses correctement, dit-elle. Au passage, elle vante les bienfaits de ce passage au numérique en santé, en disant, vous n'aurez plus à répéter votre histoire d'un établissement à l'autre, vous aurez un meilleur accès à vos informations. Pour le personnel, ça signifie moins de paperasse, une information centralisée, facile à consulter et des décisions plus rapides. Elle met toutefois la population en garde à l'effet que tout ne sera pas parfait. Dit, je tiens à être honnête, il n'est pas impossible, que le début soit plus complexe. Oui, il pourrait y avoir des bugs, mais je vous le dis, il est hors de question de revivre un deuxième cycle. C'est pourquoi j'ai demandé de la transparence. Santé Québec fera des suivis réguliers et la population sera informée. Fait que le 9 mai, dans 5 jours, le déploiement des projets pilotes pour DSN. Vraisemblablement, on va de l'avant avec ça. Les syndicats québécois qui se retrouvent dans l'embarras après qu'une vidéo soit devenue virale en fin de semaine où on voit une sculpture en papier mâché qui représente le ministre du Travail, Jean Boulay, se faire trancher la tête par une guillotine. On voit ensuite deux hommes botter la tête en question. Des drapeaux de la CSN sont visibles autour de la scène, mais le syndicat se dissocie de l'action. Les autres grandes centrales syndicales du Québec qui ont aussi voulu se dissocier rapidement. La première ministre Fréchette a d'ailleurs salué la réaction des syndicats syndicat, écrivant sur les réseaux sociaux qu'ils avaient la responsabilité de dénoncer les actes survenus lors de la manifestation, ce qu'ils ont fait rapidement, dit-elle. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui avait été auparavant le premier à réagir avec son député Pascal Paradis en demandant des excuses aux organisateurs de cette manifestation, invitant tous les autres élus de l'Assemblée nationale à également demander de telles excuses. Le chef du Parti libéral, Charles Milliard, a aussi demandé des excuses, clamant que ce type d'action n'a pas sa place dans notre société.
Ça se passait samedi à Montréal dans le cadre de la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses. Fait que c'est très festif.
Ouais.
Y'a pas grand monde qui crie au scandale là.
Non. On est content. Hey, on botte la tête. Il y en a un autre qui botte. Ah, ça, c'est un bon botté de dégagement, par exemple.
Les gars prennent une petite bière, ils bottent la tête de, hein, ouais, de Jean Boulet. C'est pas des images qui sont super belles. Il y en a qui vont dire, la gang, il n'y a rien là. Mais d'un autre côté...
C'est un recul.
Ça se passe dans un autre pays. Tu vas dire que ces gens-là, c'est des barbares. Ça se passe ici, tu vas dire qu'ils étaient sur le party.
Ouais, c'est ça. Puis t'es un syndicat. Il y a des personnes anti-syndicales qui vont prendre la tête de Magali Picard pour faire ça. Ça va ruer les bras.
Max.
Le Parti québécois qui n'aime pas le ton de la nouvelle première ministre Christine Fréchette envers le gouvernement fédéral. Dans une entrevue éditoriale accordée au bureau parlementaire du journal dans les derniers jours, Mme Fréchette qui mentionnait ne pas vouloir déchirer sa chemise d'emblée dans ses échanges avec Ottawa, disant vouloir privilégier une collaboration plutôt qu'un ton plus combatif. Et pour le PQ, ce ton passif risque plutôt de venir affaiblir le rapport de force du Québec face au fédéral. Le député Alex Boissonneau qui va jusqu'à parler d'aveuglement volontaire dans le contexte où l'histoire démontre qu'il n'y a pas d'avenir pour une approche comme celle-là. Il déplore que Mme Fréchette adopte, selon lui, une posture de rouge, une posture passive, conciliante, et qu'Ottawa dicte l'agenda et Québec réagit de façon très conciliante, du bout des lèvres, en demandant qu'on respecte nos champs de compétences. Pour M. Boissonneau, ce qu'on peut s'attendre de voir, c'est au mieux des gains cosmétiques avec le gouvernement Carney ou des attentes administratives. Dans une entrevue avec La Presse, qui paraît ce matin, le ministre responsable des relations canadiennes, Jean Boulet, justement, aborde cette nouvelle approche basée sur moins de confrontation et plus de collaboration. Les Québécois voudraient moins de taxes provinciales sur l'essence. Ce constat, qui est loin d'être surprenant, est appuyé ce matin par un sondage léger publié par la Fédération canadienne des contribuables. 76% des Québécois se disent pour une baisse de taxes, 17% s'y opposent. Quand on enlève les indécis, là, c'est 82% des répondants qui sont en faveur de la baisse. Selon les calculs de la Fédération canadienne des contribuables, un répit à la pompe au niveau des taxes provinciales permettrait d'économiser jusqu'à 10 $ par plein pour une camionnette. Rappelons que le gouvernement fédéral a récemment annoncé une suspension de la taxe d'accise sur l'essence, ce qui est à peu près 10 cents, là, mais le provincial qui a toujours pas bougé.
Ouais, j'y crois. Ce serait dans les livres à ce qu'on nous mentionne. Là. Elle a, pour ses 100 premiers jours, elle a quelque chose à annoncer chaque jour.
Ouais.
Il semblerait que la baisse... on enlèverait une taxe là, sur l'essence, puis ça ferait en sorte que ça donnerait une petite baisse pour le Québec aussi, puis les Québécois. Ce serait une bonne chose ces temps-ci. Là. Je pense que les gens en arrachent un peu. C'est sûr que la gauche est totalement contre ça.
C'est clair.
Eux autres, ils nous voient toujours en baissé à pédale. Je sais pas si tu lis la chronique de Mme Pilote. C'est pas Magali, c'est quoi son nom? C'est la fille de Pilote.
Tabarouette. Madeleine Pilote-Côté.
Pilote-Côté. C'est quoi ça, le titre de sa chronique aujourd'hui?
Je vais aller voir ça. la liberté de ne pas avoir d'auto.
Ouais.
Oui.
Puis là, elle fait la morale tout en disant...
C'est dans quel média, ça, La Presse?
C'est dans la...
Non, c'est dans le journal.
Dans le Journal de Québec.
Journal de Québec.
Journal de Montréal. Fait que là, elle dit qu'elle est libre de ne pas avoir d'auto, mais après ça, elle dit qu'elle reste en ville, qu'elle utilise le transport en commun. Qui n'a pas d'enfant.
C'est ça.
Puis c'est une travailleuse à la maison.
Bon.
Elle fait du télétravail.
Fait que ça aide, hein?
Ben oui. C'est plus facile de faire la morale au monde dans ce temps-là.
Ben c'est ça. On salue tous les fonctionnaires qui maintenant sont de retour au travail 3 jours par semaine au bureau pour faire du... comment ils appellent ça, non?
Du Zoom.
Ouais, c'est ça, mais comment ils ont dit ça, les syndicats? J'ai trouvé ça bon. Présentiel en vidéo, je me souviens plus comment ils ont... Du téléprésentiel. Et qui ont 2 enfants qui font du sport. T'sais. Comme moi, en fin de semaine, j'aurais pas de voiture, ça aurait super bien fonctionné. Juste hier, j'ai couru le demi-marathon à Lévis. Puis après ça, j'étais allé voir mon gars jouer au flag football à Saint-Augustin. Ça se fait super bien. Beauport, Lévis, Saint-Augustin. C'est, ça aurait été extraordinaire. En bixi, là, après un demi-marathon, ça aurait bien été.
Puis il y a eu une couple d'articles qui a écrit là-dessus en fin de semaine. On dirait qu'il y a une collaboration de la part des journalistes.
Ouais.
Les journalistes veulent aider à la cause des fonctionnaires qui, eux autres, ne veulent pas retourner au travail en présentiel. Quoi penser de tout ça?
C'est ça.
Y a des quartiers qui sont en train d'être complètement désertés parce qu'il n'y a plus de fonctionnaires. C'est des quartiers qui fonctionnaient en raison des fonctionnaires. Est-ce que c'est le gouvernement qui dit, ben là, nous, on veut les faire sortir parce qu'on veut qu'ils aillent dans les restaurants, on veut qu'ils achètent de l'essence?
C'est clair qu'il y a une pression là-dessus.
Tu penses-tu que c'est ça?
Ben moi, je pense que c'est un des facteurs. Je suis pas prêt à te dire que c'est le facteur prédominant. Parce que je pense que le facteur prédominant reste qu'ils ont pogné une couple de fonctionnaires, une bonne proportion à pas toujours faire les heures de travail.
Ouais, mais ces gens-là, ils ont juste à les mettre dehors.
En effet.
Parce que de lire des trucs comme « je m'en vais au bureau puis j'ai même pas de place attitrée. Je sais même pas où je dois m'asseoir. »
Ça me sidère.
Des fois, je suis en train de parler d'un dossier qui est hyper confidentiel puis
tout le monde peut entendre
mon collègue de travail qui est à ma gauche est en train de parler de coupure de poste d'un individu X. Puis là, tout le monde est en train de donner de l'information confidentielle autour de la table. Ça a comme pas de sens.
C'est une catastrophe, ce retour au travail-là. En termes de planification de changement, là, tu ramènes des gens 3 jours pour qu'ils fassent du téléprésentiel une bonne proportion de leur temps, puis que les conversations soient plus confidentielles. Qui ferait ça dans l'entreprise privée?
Ouais. Moi, tout ce que je veux, l'objectif que je veux, c'est que les fonctionnaires puissent travailler dans des conditions de travail qui ont du sens, mais qu'ils fassent la job tout simplement. S'il y en a qui sont à la maison puis qui ne travaillent pas puis qui déclarent des heures, ça s'appelle du vol. Excellente occasion de les sacrer dehors.
Ben oui, tu gères ça cas par cas. Nous, on avait eu à le gérer dans les organismes communautaires là, après justement la COVID parce qu'il y en avait qui avaient pris goût au télétravail et tout ça. Puis on disait, nous, tant que la job est faite puis les échéanciers sont respectés. Et moi, sous ma supervision, j'ai eu une employée qui ne respectait pas les échéanciers. Ben j'ai dit, t'es de retour 5 jours au travail au bureau. Parce que j'ai besoin de t'accompagner.
Mettons que t'es rentré, là, 2 ans au gouvernement. Puis ils te disent, ben, toi, ta job au gouvernement, c'est du télétravail. C'est un plus. Tu te dis,
ben oui.
Parfait, je vais prendre cette job-là. Mais si l'employeur change les conditions en disant, ouais, télétravail, ça marche plus, faut que tu te présentes. Si toi, t'avais décidé d'habiter, je sais pas, moi, à Sainte-Brigitte-de-Laval, en disant, regarde, moi, je vais m'acheter un beau petit spot avec l'Internet, tout ça. Je vais me faire mon bureau dans ma maison. Tu investis dans ton travail pour être bien, pour être confortable puis être le plus effectif possible. Puis là, tout d'un coup, ils changent les données en disant « Non, il faut que tu te présentes à la job. » Là, je comprends la frustration de ces gens-là.
C'est clair.
Mais les autres là, qui travaillent au gouvernement depuis 10, 15, 20 ans, tu sais, eux autres, là, c'était dans leurs conditions de travail de se pointer à la job à
tous
les
jours.
Fait que si on vous donne 2 jours à la maison, acceptez-le.
Ouais.
Les 3 autres jours, allez-y. Mais de l'autre côté, il faut que l'employeur mette les ressources nécessaires pour leurs employés.
Non, mais t'as raison. T'sais, moi, mon frère, il a racheté une maison d'un couple, justement, que venait d'avoir des nouveaux emplois dans la fonction publique, puis ils pouvaient faire du télétravail 5 jours par semaine. Donc, eux, ils avaient décidé, c'est un couple qui venait, si je me souviens bien, de la région du Saguenay. Il avait décidé, hey, on retourne dans notre région et nous, on va pas travailler du Saguenay, puis nos parents sont vieillissants. Fait qu'on va s'occuper de nos parents. Fait que mon frère a racheté la maison. Mais là, eux autres, si tu leur dis, hey, c'est 3 jours en présence au complexe G, ils vont dire, mais non, mais attends une minute, moi, j'ai pris la job parce que c'était du télétravail, puis je fais m'occuper de mes parents.
Là, je la comprends. Je la comprends,
ben
la frustration.
Oui. Ben oui, moi aussi.
Mais pour le reste, c'est difficile à comprendre. Mais regarde, ils considéraient ça comme un acquis alors que ça n'en était pas vrai.
Exactement.
Max!
Québec a accordé un contrat de 115 000 $ à une firme de marketing pour accompagner François Legault dans sa transition vers la vie après la politique. C'est ce que nous apprend ce matin le Journal de Québec. L'agence Spritz, qui a été mandatée pour offrir un soutien administratif pendant 1 an, incluant la gestion de documents, l'organisation logistique et la gestion des médias sociaux, dépense qui s'inscrit dans les dispositions prévues par la loi sur l'exécutif qui permet aux anciens premiers ministres de bénéficier d'un accompagnement pour faciliter leur départ de la vie publique. Le montant qui correspond au plafond autorisé équivalent au salaire annuel maximal d'un attaché politique. Là, ce qui fait jaser beaucoup, c'est quand on met en lumière le fait que c'est la gestion de médias sociaux. Là, c'est pas juste ça, mais en effet, tu te dis, OK, ouais, François Legault, as-tu vraiment besoin de quelqu'un pour prendre des photos de lui qui lit un livre puis publier ça sur Internet? Parce que c'est arrivé en fin de semaine, puis on se dit, OK, c'est-tu cette agence-là qui est payée pour prendre ces photos-là? Puis c'est ça l'accompagnement d'un ex-premier ministre qui nous coûte cher, c'est sûr que ça soulève des questions.
Je tiens à souligner que le Parti libéral a fait un bon coup dans les dernières heures, particulièrement dans le secteur de Louis Hébert.
Ça sera annoncé officiellement.
Oui. Louis Hébert, toi, tu dis que ça va être annoncé prochainement, mais c'est vraiment lui le candidat qui va être annoncé. C'est Maître René Verrette qui a œuvré pour le DPCP pendant des années et des années. C'était un redoutable procureur de la Couronne. Il a été porte-parole aussi du DPCP. C'est quelqu'un qui est droite, c'est quelqu'un d'envergure, c'est quelqu'un qui pourrait être ministrable.
Vraiment.
Puis on le met dans la circonscription, qui ne sera pas facile parce que c'est une circonscription qui, s'il y avait des élections demain matin, ce serait le PQ qui l'emporterait. Ouais. Parti conservateur semble être deuxième, puis après ça, ce serait le Parti libéral, et après ça, ce serait la Coalition Avenir Québec. C'est la circonscription de Geneviève Guilbeault. En fait,
exactement,
c'est la circonscription de Geneviève Guilbeault. Donc, salutations à la gang du Parti libéral. Avec un René Verrette, là, il score très fort dans la région de Québec.
On l'a connu pour le dossier de Guy Turcotte.
Oui.
Ce médecin là, qui avait tué ses deux
enfants. Peu importe quand il était pour la poursuite ou quand il était pour la défense, peu importe, il gagnait ses causes.
Oui.
Je ne sais pas c'est quoi son taux de réussite, là, mais il doit être dans le 90-95% depuis le début de sa carrière, ce qui est exceptionnel. Là.
C'est lui qui a renversé justement le jugement de Guy Turcotte, qui avait été, en premier lieu, au premier procès, reconnu non criminellement responsable. Puis c'est lui qui est retourné pour le deuxième procès.
Guy Turcotte, t'as pogné quoi, 17 ans?
S'est fait emprisonner. Faudrait regarder.
C'était ça, oui.
Puis j'ai un peu check donc voir quand est-ce que c'est arrivé. C'est-tu 2011? J'ai 2011 en tête, Guy Turcotte.
C'est 2015, Guy Turcotte, puis c'était 17 ans.
2011, ça doit être son nom criminellement responsable.
Ça. 2011, ça avait été le premier procès. Et
là, il serait éligible à une libération conditionnelle quand?
17 ans, deux tiers de la peine, à nous emmener.
Yish!
Dans Louis Hébert, en passant, PQ 34% selon Québec 125. C'est le PLQ en deuxième à 22%. Parti conservateur suit à 19, la CAQ à 17.
La CAQ à 17. Fait qu'il serait bon deuxième, mais un certain pourcentage, là, toi, c'est 17-8%?
Oui, il y a 12% de différence avec le PQ.
Mais là, on n'avait pas de candidat.
Exactement. Non, mais on frappe fort dans la région de Québec présentement pour le Parti libéral. Là, je ne suis pas sûr parce que je faisais des chroniques ici, mais Farnell Morissette est une bonne prise aussi dans Tachereau. Donc, on a des bonnes candidatures.
Donc, l'annonce officielle pour ça qui sera faite aujourd'hui par le chef Charles Milliard. La Ville de Québec qui réussit à économiser grâce à une nouvelle façon de faire pour la tonte de pelouse. C'est ce qu'a constaté le Journal de Québec qui explique le tout par une optimisation du processus d'appel d'offres ayant permis de limiter les monopoles et d'encourager la concurrence. On rapporte qu'entre 2026 et 2025, la superficie de contrat de tonte a augmenté de 600 000 mètres carrés, mais le budget est quand même passé de 1,95 million à 1,81 million. Fait qu'une hausse des mètres carrés, mais une baisse au niveau du budget. La nouvelle façon de faire de la ville qui a permis d'obtenir 18 soumissionnaires en 2026 contre 8 en 2022. Sur trois ans, l'administration Marchand qui calcule que les contrats de tonte de pelouse lui coûteront 5,5 millions alors que les prévisions initiales étaient autour des 8 millions. Donc, quand même des économies intéressantes.
Ouais, mais à la fin de l'article, je ne sais pas si tu as continué jusqu'à la fin de l'article, là, mais on dit que c'est probablement en raison du fait que maintenant, on ne ramasse plus les feuilles, on les tond, puis on participe au mai sans. Tu sais, au mois de mai sans couper le gazon. Là.
Ouais. Les abeilles.
Ben, là, il y a un mois. Si on nous dit, hey, on est bien fiers d'avoir fait des économies, sauf que pendant un mois, ils ne coupent
pas
le gazon.
Job.
Fait que les économies passe probablement par ce mois-là. Là.
Mais ouais. le nombre de soumissionnaires a quand même plus que doublé. Là, fait que peut-être que là-dedans, il y en a y a une partie quand même de le fun, d'adéquat, de bien.
Mais tu te rends compte que tu soustrais 30 jours de tonte de gazon dans un contrat. Là.
Mais avec l'inflation, ça aurait augmenté pas mal. Le reste que ça baisse, c'est positif.
Si je tombe mon gazon en main, j'ai-tu une chronique dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui me dit que je suis pas l'apôtre de cette gauche?
C'est une bonne question. Moi, je l'ai pas faite l'an passé pendant le mois de mai. Sauf que je vais t'avouer que les pissenlits commençaient à me gosser.
Ouais, c'est ça. Je me pose la question.
À la devanture de la maison, là, les pissenlits commençaient à me gosser. Mais en arrière, j'ai gardé ça quand même assez long. Puis là, devant, je pense que j'ai fait ça au 25e jour ou au 26e jour. Je n'étais plus capable.
Ah, c'est ça. Je déteste les pissenlits.
Ouais, j'ai participé quand même. Max.
Bravo.
Je termine avec ça. Un projet de 67 logements pourrait voir le jour sur un terrain vague du boulevard Henri Bourassa face au méga hôpital malgré plusieurs dérogations au règlement d'urbanisme. Selon Le Soleil, le bâtiment qui est prévu qui compterait 6 étages et atteindrait 19 mètres de hauteur alors que la réglementation actuelle, ça limite ces paramètres-là à 13 mètres. La ville qui envisage d'autoriser ces écarts-là en s'appuyant sur le projet de loi 31 qui permet d'accélérer certains projet résidentiel en imposant certaines conditions. Et on retrouverait là-dedans l'obligation d'avoir 90 % de stationnement intérieur, 20 % d'espace vert et des aménagements pour vélos. Le projet qui prévoit aussi des briques, des exigences architecturales, notamment l'utilisation de briques rouges et des entrées individuelles au rez-de-chaussée. Aucune unité de logement social ou abordable n'est prévue. Fait que ça, c'est sûr que ça plaira pas à certaines personnes. Le projet qui sera présenté aux résidents du secteur lors de la prochaine séance du conseil de quartier de Maizeray. Ça, c'est aujourd'hui. Et les résidents qui pourront s'exprimer lors d'une consultation écrite sur le projet.
Merci beaucoup.
Les sports. Sports.
Ah, ça a fait du bien hier quand les dernières secondes s'écoulaient, là, de voir que, OK, c'est fait. Le Canadien, ça n'a pas été son meilleur match, mais on a réussi à remporter le 7e et décisif match hier. Salutations à Alex Newhook qui a trouvé comment déjouer Vasilevskiy. Tu y tires dessus à quelque part où il pense pas que
frapper
tu vas tirer.
La rondelle, trois pieds dans les airs.
Par derrière,
puis
incroyable. Puis c'est une stratégie que le Canadien n'a pas utilisé beaucoup. Ça, hier, lancé au but.
Non.
On l'a fait 9 fois, puis là-dessus, il y a 2 fois que ça a rentré. Alors que Lightning a tiré 29 fois, puis ça a rentré rien qu'une fois parce que Jakub Dobesch était en feu. Donc, c'est fait. Le Canadien qui accède à la deuxième ronde des séries va affronter les Sabres de Buffalo. Nick Suzuki qui avait ouvert la marque en première période avant qu'Alex Newhook marque le but gagnant en troisième. La série donc face aux Sabres qui va débuter mercredi. D'ailleurs, de ce que je comprends, les gars dès aujourd'hui là, vont prendre l'avion si ce n'est pas déjà fait pour se rendre du côté de Buffalo. Le match numéro 2 qui sera disputé vendredi avant que la série se transporte à Montréal dimanche prochain. Premier match complètement débile dans la série du deuxième tour Wild Avalanche hier. Victoire de 9 à 6 du Colorado grâce à 4 points de Devin Toews, 3 chacun pour Cale Makar, Martin Nečas et Nathan MacKinnon. Il y a 2 matchs ce soir, Flyers Hurricanes, la Caroline qui mène 1 à 0 après une victoire de 3-0 samedi et Ducks Golden Knights.
Y a-t-il des séries qui vous impressionnent? Que vous pensiez pas que ça allait virer de même?
Là, 9-6 Colorado, Minnesota, je m'attendais pas à un match comme ça. Dans mes prédictions, j'ai mis Colorado en 6. Je m'attendais à une série quand même assez offensive. Mais, Colin, 15 buts dans un match.
La première ronde?
Ouais.
Les Ducks qui battent les Oilers, ça, c'est à la fois une déception puis quand même une surprise. Là, mais quand tu regardes... on dit surprise, mais on dirait que les Ducks, parce qu'on est... On s'attendait pas à les voir là cette année, mais quand tu regardes leur line-up, là, c'est toute une profondeur. Je pense que les Golden Knights doivent vraiment pas prendre les Ducks à la légère. Là. Même que je pense que dans mes prédictions pour cette série-là, j'ai quasiment envie de favoriser les
Moi,
les
je suis allé avec les Ducks parce que la défensive m'a vraiment charmé en première ronde. Le duo Trouba-Lacombe est un duo qui est capable justement d'anéantir les élans offensifs des meilleurs joueurs. Puis à l'attaque, là, quand t'as des gars comme Kreider, Killorn sur le troisième trio, des joueurs d'expérience qui se sont déjà rendus loin en série, ça accompagne bien les jeunes talentueux. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des Ducks.
Sinon, les Pingouins qui l'échappent contre les Flyers, c'est les Pingouins qui ont eu des blessés toute l'année. Malgré ça, qui ont réussi à faire les séries, je me disais, là, en première ronde, t'es en santé contre les Flyers, tu devrais passer ça. Puis là, les jeunes Flyers qui ont été surprenants, pour les Flyers, ça risque d'être, malheureusement, pour eux, un balayage là, contre les Hurricanes. Moi, j'ai dit Canes en 5. Là. Peut-être que les Flyers vont réussir à aller en voler une. Ça a mal commencé samedi. Ils n'ont pas été capables d'en scorer un. Mettons qu'on considère surprise, ce que j'ai pas eu dans mes prédictions. J'avais essayé le upset de l'Utah sur les Golden Knights. Finalement, les Knights qui ont eu le dessus. Je dirais pas que c'est une surprise. Mais là, en deuxième ronde, il y a une couple de séries que j'ai hâte de voir. Là, avec le premier match qu'on a eu hier entre le Wild et l'Avalanche, 9-6, ça n'a pas de bon sens comme résultat. J'ai hâte de voir les prochains matchs de cette série-là. Canadien sort, puis ça va se jouer du gros hockey de ce bord-là aussi. Fait que non, on va avoir un solide deuxième tour. À part peut-être, comme je disais, Flyers, Hurricanes, que... Je sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si ça va être serré tant que ça. Là. Pour les autres séries, je pense qu'on va avoir du gros hockey.
Parfait. Nous, ça commence mercredi 19h.
Ouais, du côté de Buffalo.
All right. T'as-tu déjà réservé à Cajun Sport?
Pour vendredi, oui.
Pour vendredi, ouais. C'est déjà fait
cool,
d'avance.
Ça.
Les gars se préparent d'avance. Mais oui. C'est M. Sergakis là, qui doit avoir une couple de restos et de bars à Montréal qui disait que depuis plusieurs semaines, les gens se bookent d'avance.
Ben oui, pas le choix.
C'est le truc à faire, là.
Donc là, ça va être mercredi, vendredi, j'imagine dimanche après, parce que là, on va quand même jouer en accéléré. Hurricanes Flyers jouent leur deuxième match ce soir, là, fait qu'on n'aura pas le choix de mettre la pédale au fond. Ça va être des matchs aux deux soirs, ça va être intéressant.
6h50, vous avez des choses à nous dire, vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route, merci de nous texter. C'est le 88-971-102. Pour nous informer de ce